Vous allez entendre un message de William Marion Branham, intitulé « Un prophète rouge de honte », prêché à Jeffersonville, Indiana, USA, le 25 novembre 1956. Maintenant, puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions sur le sujet « Un prophète rouge de honte ». Ce matin, nous étions tout entiers à l'écoute de ce prophète qui porta une robe de seconde main. Et ce soir, nous savons, conformément à l'écriture de ce matin, que nous aussi nous portons une robe de seconde main. Et je suis si heureux que c'en soit une, car cette robe que nous portons maintenant est reconnue par Dieu à justice, par Christ Jésus. Nous ne revêtons pas la robe rongée par les mythes et les grillons, etc., d'une quelconque théologie d'homme qui dit que les jours des miracles sont passés, qu'il n'y a plus une telle chose que l'omniprésence du Saint-Esprit. Mais nous portons la robe de sa justice. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. Pas par notre propre compétence, mais par la force de notre Seigneur Jésus. Et quand j'arriverai au Jourdain, je veux avoir revêtu sa robe, me confiant en la sienne, et la grande ombre de la porte qui se dresse devant nous tous, appelée la mort, nous approche irrémédiablement, à chaque battement de cœur, de cette grande brèche que tout homme et femme devra traverser. Et quand j'arriverai à cette brèche, avec vous croyants, je suis si heureux de savoir que je n'y vais pas avec cette pensée en tête et au cœur que j'ai fait quelque chose de grand. J'y vais, confessant et reconnaissant que je suis un pécheur, et sachant ceci, que je veux m'envelopper dans les robes de sa justice, avec ce témoignage que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Et quand il appellera d'entre les morts, j'en sortirai volontiers. Maintenant, notre scénario est établi pour notre texte de ce soir, et se passe en un tout autre jour en Israël, lequel se déroulait il y a plusieurs centaines d'années après le temps d'Élie. Beaucoup de hauts et de bas étaient venus dans le règne d'Israël. Ce matin, nous étions à la scène où il y avait un tas d'imitations charnelles, comment ils avaient institué l'école des prophètes pour former des prophètes. Et ils étaient si élémentaires qu'ils ne pouvaient pas même comprendre la puissance de Dieu. Ils pensaient que la puissance avait soulevé Élie et l'avait transporté quelque part dans la montagne et ils avaient envoyé un détachement à sa recherche. Alors qu'Élisée savait bel et bien que Dieu l'avait pris dans la gloire, car il n'était plus. Dieu l'avait pris, et il échappa à la mort en retournant à la maison vers Dieu sur un char et des chevaux de feu. Et ensuite, nous avons vu que les séminaires et les œuvres de leur propre théologie n'aboutissaient à rien. Il fallait donc l'élection et l'appel de Dieu pour faire un prophète de Dieu. Et ce soir, nous trouverons Israël dans une condition rétrograde. Israël avait ses hauts et ses bas. Il est un type même de l'Église aujourd'hui. Parfois, ils étaient sur la montagne, la fois suivante dans la vallée. C'est ce qu'il faut pour nous faire apprécier les bonnes choses. C'est ce qu'on appelle la loi des contrastes. L'homme noir d'Afrique ne savait pas que sa peau était noire avant qu'il n'ait vu David Livingstone. C'est alors qu'il réalisa que sa peau était noire, parce que Livingstone était blanc. C'est un contraste. Vous ne sauriez jamais comment apprécier le jour si vous n'aviez pas la nuit, ou le soleil si vous n'aviez pas de ciel ennuagé. Vous ne sauriez jamais comment apprécier la justice, à moins qu'il n'y ait l'injustice. Vous ne sauriez jamais comment apprécier une bonne santé, à moins que vous n'ayez une santé fragile, une mauvaise santé. Et la raison, je pense, pour laquelle nous apprécierons autant le ciel, c'est que nous aurons d'abord vécu sur terre. La raison pour laquelle nous apprécions à ce point le Saint-Esprit ce soir, c'est que nous avons passé tant de temps dans une église qui nous disait qu'une telle chose n'existait pas. La raison pour laquelle nous apprécions cela ce soir, c'est que nous avons eu l'autre versant. Et c'est de cette façon que Dieu l'a voulu, puisque son peuple eut ses hauts et ses bas. Vous ne saurez jamais comment apprécier un sommet que vous n'ayez été dans la vallée, ni apprécier de la bonne eau, à moins que vous n'en ayez aussi bu de la mauvaise. C'est entièrement une loi de contraste. Et là, Israël était dans l'un de ses états lamentables. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Aussi Israël était-il un peuple choisi, élu, sélectionné, que Dieu avait choisi dans un but spécifique, que le sang d'Israël conserve le sang le plus pur, car de cette lignée devait venir le Messie lui-même. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu se fit connaître dans l'homme. Dieu se fit connaître en Abraham en tant que père de la foi. Dieu se fit connaître en David en tant que roi. Il se fit connaître en Joseph en tant que justice. En Moïse en tant que prophète, sacrificateur, législateur. Il se montra à travers les âges en les prophètes. Il s'est toujours manifesté en portions dans les hommes, dans les prophètes, les rois, les sacrificateurs, les législateurs, ainsi de suite. Mais en Christ, il habita en lui la plénitude de la divinité corporellement, sachant que cet esprit trouverait finalement un lieu de repos. Il était un homme de la justice de Dieu sur Élie. Il exprima la justice de Dieu. Un législateur en Moïse, obéissez ou sortez, et toutes ces choses, Dieu, en toutes ces choses, Dieu se représentait. Mais quand il vint à Christ, il était parfait. La plénitude entière de la divinité reposait corporellement en Christ. Une fois auparavant, Dieu s'était représenté lui-même dans la plénitude. Dans le livre de la Genèse, selon l'ordre de Melchisédek, il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il était sacrificateur, le roi de Salem, sacrificateur de Dieu, du Dieu très haut, qui était sans commencement ni fin. Il était nul autre que la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, car il était roi de Salem, lequel est roi de paix, lequel est roi de Jérusalem. Il était en préfiguration. Le patriarche Abraham lui donna même la dîme. Il préfigurait la venue du Seigneur Jésus. Ce même Melchisédek rencontra Abraham dans les plaines avant la destruction de Sodome et Gomorre. Et il le rencontra après Sodome et Gomorre, quand Abraham paya la dîme de tout le butin qu'il avait pris des rois. Toutes ces choses sont des ombres, des types jusqu'à Christ. Et maintenant, tout ce qui est l'ombre des saints de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, nous servent d'ombres et de types et nous sont donnés en exemple pour aujourd'hui. Nous découvrons qu'Israël n'allait pas se mêler aux autres. Leur mariage devait se faire entre eux. Un Israélite ne marierait jamais une femme des nations, afin de garder leur sang pur. Et même de nos jours, le sang juif est, je crois, le sang le plus pur qu'il y ait à la surface de la terre. Le sang juif. Ils attendent encore ce Messie. Nous savons qu'il est déjà venu, et que leurs yeux étaient aveuglés pour que nous ayons une chance de repentance par Christ. Donc, durant le temps du règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés vers les femmes des Moabites, celles des Amoréens et des Phérésiens, et celles de plusieurs autres nations. Non seulement ils les avaient mariées, mais ils commettaient fornication et impureté entre eux, souillant de ce fait le sang duquel est la vie. Et combien cela est-il une représentation de nos églises d'aujourd'hui, et de quelle façon elles s'éloignent de la ligne découpée à l'ancienne mode que Dieu a établie pour elles. Des préceptes par lesquels nous devions vivre, l'Église est plutôt en train de commettre fornication avec le monde. Elle est sortie dans le monde, et elle a commencé à flirter avec le monde. Aussi, ceci avait embarrassé à tel point le prophète, que lorsqu'il alla devant Dieu, il rougit. Lorsqu'il entendit premièrement cela, et qu'il vit la déchéance morale de son peuple, cela le désola à tel point qu'il s'assit et soignit, s'arracha les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et fut lourdement chagriné devant le Seigneur en prière. Ensuite, quand fut offerte l'offrande du soir, il alla au temple et tomba sur ses genoux, et fut tout honteux devant Dieu à cause des péchés du peuple. Il n'a pas rougi à cause des rues achalandées du quartier réservé à la prostitution. Il n'a pas rougi à cause des ivrognes dans leur taverne, aussi mauvais que cela puisse être, mais il rougit à cause du péché des élus. Et ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de quelques autres prophètes, avec assez de Dieu dans leur cœur, qui les fera rougir en sa présence, à cause des péchés des gens qui se disent être le peuple de Dieu et qui font ce qu'ils font. Quelle disgrâce n'avons-nous pas apporté à ce lieu, la morale de notre peuple? Ce n'est pas un sujet facile sur lequel parler. Bien d'autres sujets auraient été plus faciles à aborder. Mes frères, si personne ne se détache pour donner l'heure, en ce jour adultère et pécheur dans lequel nous vivons, qu'arrivera-t-il? Quelqu'un doit en parler, quelqu'un doit remettre les choses à leur place devant le peuple. Esdras ne voulait peut-être pas le faire, cependant c'était dans son cœur. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu devenir si sincère, qu'il tombe sur sa face, ses mains étendues, implorant Dieu et rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez poindre un réveil. Un homme ne peut demeurer dans la présence de Dieu, une assemblée ne peut rester dans la présence de Dieu, dans la repentance, que si le Saint-Esprit ne descend et ne donne l'onction et la puissance pour y faire bouger Dieu parmi ces gens. Absolument. Montrez-moi un homme, montrez-moi un autre Calvin, Knox, Finet, Sankeo ou quiconque sent le fardeau du peuple qui restera sur sa face à implorer et à prier devant Dieu. Envoie-nous à nouveau un John Smith de l'église baptiste, lequel ayant prié et pleuré toute la nuit à cause de l'iniquité du peuple, ne pouvait plus ouvrir les yeux tant ils étaient enflés, que le lendemain sa femme dut le conduire à la table et lui donner son déjeuner à la cuillère. Montrez-moi à nouveau un John Wesley, un tison tiré du feu, et je vous montrerai un réveil. Aujourd'hui, ils vous tapotent l'épaule, c'est ce qu'ils font. Nous appelons ça ceci et cela, et un réveil, alors qu'il n'y a pas de réveil en cela. Oh non, il y a une agitation d'émotions religieuses parmi les gens, mais pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux en ces jours-là, il y avait beaucoup d'agitation en ce jour-là, mais ils avaient besoin d'un réveil. Eh bien, mon cher frère, ma chère sœur, la morale de cette nation est devenue si vile qu'elle rendrait malade un chien. Elle ferait rougir une truie si elle le pouvait. L'immoralité de notre peuple, les gens, même il y a des années de cela, ce que les gens ont fait, ce que la nation a fait, les choses que nous avons, un manque de prière est la cause de tout cela. L'Église qui d'ordinaire ne croyait pas au cinéma n'aurait pas laissé ses enfants y aller. Ils auraient évité ces endroits. Mais de nos jours, ils ont leur cinéma dans leur propre foyer. Chaque maison a son téléviseur. Là où d'habitude ils auraient cru mauvais de boire de la bière, John Barleycorn, quel vilain garnement il était. De nos jours, 60% des chrétiens de nom prennent un verre en société au moins une fois l'an. Par la suite, ils feront la fête quand ils auront leur célébration à la Noël. C'est qu'ils ont adopté l'éducation plutôt que le salut. Ça ne le remplacera jamais. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un réveil. On s'est appliqué des pansements et on les a enlevés. Un autre pansement, on l'a enlevé, pour découvrir que la douleur persistait encore. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'une régénération sociale, ni de discours intellectuels, mais d'une transfusion de sang, envoyée de Dieu à l'ancienne mode, depuis le ciel. Les pansements ne nous feront aucun bien, puisque nous sommes anémiques. Une transfusion de sang est donc nécessaire. Il nous faut revenir à cet évangile démodé qui appelle à la repentance devant Dieu, et non à une profession aux yeux secs ou à une poignée de main, mais à un réveil du Saint-Esprit envoyé de Dieu avec la possession du sang purifiant du Seigneur Jésus-Christ dans chaque cœur humain. Il faut qu'un réveil commence dans l'Église et qu'il balaye la nation. Nous mourrons, nous périrons, c'en est fini de nous sans ce genre de réveil. J'en ai par-dessus la tête de voir ces petits réveils hollywoodiens insignifiants où les gens vont et deviennent tout excités par l'émotion pour quelques heures, ou un jour ou deux, ou une semaine ou deux, et sitôt sortis, sitôt oubliés. Frères, un réveil peut vous enthousiasmer et vous émouvoir, et vous pouvez être bien intentionné, tout ça c'est bien, mais à l'heure qu'il est, ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut un baptême du Saint-Esprit pour changer l'émotion, l'intellect, l'opinion, les habitudes et la vie des gens et les ramener sur le droit chemin à nouveau. En dehors d'une transfusion de sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront à rien du tout. Ce n'est pas l'Organisation des Nations Unies qui nous aidera. Nous les avons. Et que font-ils? Ils ne font jamais appel au nom de Dieu. Ils ont peur de le mentionner. Il leur fut une fois demandé par un groupe de pasteurs pour quelle raison ils ne s'y faisaient jamais de prière. On a répondu que cela pourrait offenser quelqu'un, un des autres qui ne croit pas en Dieu. Oh, combien un réveil est nécessaire! Peu importe si ça offense quelqu'un, nous devons prêcher l'Évangile et le mettre en évidence. Oui, je ne donnerai pas un sou à un programme qui ne voudrait pas de Dieu, que ce soit à l'ONU ou aux quatre grands ou à quoi que ce soit. Jusqu'à ce que cette nation s'éveille à réaliser que nous dépérissons sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que les individus s'éveillent à la cause que nous sommes mourants d'avoir omis l'original, le chemin, le remède, la cure que Dieu nous a donné au calvaire. Pas étonnant que cela ait fait rougir un homme. Pas étonnant. Un réel et vrai prédicateur veillera sur sa congrégation et tentera de les conduire devant le trône de Dieu. Et en visitant leur maison, s'il découvre qu'ils fument, se racontent des sales blagues les uns aux autres, se divertissent dans la cour arrière par des parties à la bière, et que leur jeune femme, et celle d'âge moyen, et même les grands-mères, se promènent dans les rues en petits shorts, qu'une maman, avec son bébé sous le bras, s'habillera suffisamment sexy pour attirer l'attention de n'importe quel contrebandier de la rue, et tout ce beau monde se dit chrétien, n'importe quel vrai homme de Dieu rougirait d'amener de tels gens à la présence de Dieu. Exact. Et de nous joindre à l'Église pour devenir une meilleure classe de gens à atteindre le point du ridicule. Ça l'a été en ce jour-là, et ça le sera en celui-ci. Revenons à Dieu, non en s'injectant d'une éducation, d'une réforme religieuse, non en s'injectant une sorte de théologie faite de main d'homme, mais un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé de Dieu depuis le ciel, en une expérience pentecôtiste, brûlant toute tendance charnelle, et ainsi replacer à l'intérieur le joyau que Dieu avait voulu qu'il soit, un fils et une fille de Dieu. Avant cela, frères et sœurs, nous continuerons d'avoir des cheveux coupés, du maquillage sur ces femmes à l'allure sexy, et des buveurs, des fumeurs s'appelant eux-mêmes chrétiens, tout cela parce qu'ils ne savent pas mieux faire. Dans leur cœur, cette racine charnelle y gît encore, et il nous faudra nettoyer l'Église du sous-sol à la chair. Amen. Et pas moins que cela. On en a besoin aujourd'hui de ces prophètes rougis de honte. Parfois les gens viennent dans la ligne de prière, c'est comme s'ils descendaient une maison de jeu, c'est vrai, venant demander quelque chose à Dieu et ressemblant à une Jézabel. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'une maison nettoyée et de prophètes de Dieu au cœur chaleureux qui se tiendront à la chair et qui nommeront les choses par leur nom, qui sépareront ce qui est juste de ce qui est faux, qui prêcheront l'Évangile sans compromis, jusqu'à ce que les pécheurs tombent sur leur face et pleurent, jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit purifier leur vie. Amen. Nous savons que c'est vrai, c'est exact. Je prêchais ici il n'y a pas longtemps, et je disais que chaque femme dans cette ville était coupable d'une façon ou d'une autre d'adultère. Elles le sont. Les femmes descendent à la ville, elles peuvent difficilement s'acheter une robe dans laquelle elles n'aient pas l'air d'avoir été coulées dedans. Je ne suis pas ici pour... C'est ici ma propre église. Je me permets de prêcher ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. C'est exact. Laissez-moi vous dire, je ne vous critique pas, ma sœur, mais l'Esprit ne vous enseigne-t-il pas différemment? Sinon, je crains que vous n'eussiez reçu le Saint-Esprit. C'est exact. Le Saint-Esprit, ce n'est pas crier. Le Saint-Esprit, ce n'est pas danser dans l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue. Le Saint-Esprit est justice. Amen. Oh Dieu, donne-nous un réveil du Saint-Esprit, venu de la justice de Dieu. Ne pouvez-vous pas vous rendre à l'évidence que lorsque vous vous habillez ainsi et que vous vous baladez sur la rue et que les hommes vous regardent comme ils ne devraient pas, qu'au jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lys face à votre mari, mais qu'au jugement, vous serez coupable d'avoir commis adultère avec le gars devant qui vous vous êtes ainsi présenté? Pas étonnant que cela les fait rougir. Pas étonnant. Qu'est-ce que cela fait à Dieu? Quand au commencement, dit la Bible, cela l'affligea d'avoir créé l'homme. Cela affligea le cœur de Dieu. Lorsqu'il les regarda dans les jours précédant la destruction antédiluvienne d'avoir jamais fait l'homme, que s'était-il passé? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était cette perversion, c'était ce désordre sexuel, c'était la chose qui chassa les enfants de Dieu hors du jardin d'Éden. C'était cette chose qui poussa le jugement de Dieu à rétablir la paix sur la terre. C'était cette chose qui causa leur destruction. C'était cette même confusion entre hommes et femmes qui coula Sodome et Gomorre au fond de la mer morte. Cela avait été annoncé par les prophètes. Cela avait été annoncé par le Seigneur Jésus que, comme il en avait été en ces jours-là, qu'ainsi il en serait avant la venue du Fils de Dieu. De nos jours, si on regarde bien, on voit que l'Église ne prend son modèle ni de la Bible, ni de Ruth, ni de Naomi, ni de Sarah et des autres dans la Bible. Mais elle tire son modèle, et les femmes de l'Église aussi, d'Hollywood, et des influences même du diable. Et combien nos gens qui se prétendent chrétiens iront chercher les mauvaises manières de ces hommes, ces enregistrements d'Elvis Presley, quel que soit son nom, l'une des personnes les plus dupées et possédées du diable que je connaisse. Arthur Godfrey et d'autres comme lui iront écouter ces idioties sur leur radio et refuseront d'entendre un sermon sur l'Évangile et la Bible. Que Dieu vous soit miséricordieux. Quelle sorte d'esprit avons-nous amené parmi nous? Eh oui, pas étonnant que le prophète de Dieu ait eu honte devant le Seigneur. Il savait bien que c'était de l'iniquité, et il se tint là et plaide à la cause. Il dit à Dieu, « Nous sommes coupables d'injustice. » Et nous le sommes, mes amis, tant que nous ne parviendrons pas à ce point de transfusion du sang. Renoncez aux pansements, renoncez aux onguents, vous n'obtiendrez la guérison que lorsque le système sanguin sera sain. C'est la raison pour laquelle les gens sont devenus diabétiques. Si l'un se coupait, il ne guérirait probablement jamais. Pourquoi? Parce que les cellules naturelles et rouges du sang sont rongées. Et l'Église entière est devenue diabétique. Et à chaque nouveau penchant, au lieu de continuer de l'avant, vous vous y arrêtez. Cela ne peut pas guérir. L'égoïsme, la cupidité, l'immoralité et tout ce qui se trouve dans le calendrier des méfaits contre Dieu, l'Église se les approprie bien. Les hommes boivent, fument, disent des plaisanteries de mauvais goût, les femmes se coupent les cheveux, se maquillent, font toutes sortes de choses, s'habillent de façon immorale et rencontrent les gens ainsi. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifierait de toute iniquité. Amen. Cela peut sembler dur à prendre, et ça l'est, c'est certain, mais c'est la vérité. Si nous ne renvoyons pas les jugements du Dieu Tout-Puissant, vous serez pris ici un de ces jours, dans une explosion atomique qui enverra toute âme en dehors de l'éternité, pour rencontrer un Dieu qui ne reconnaîtra que le sang de son Fils, Christ Jésus. J'aimerais vous voir venir sous le sang. J'aimerais vous aviser de vous mettre en ordre avec Christ. C'est le conseil que je vous donne. Eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas entrer dans la foi? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir autant de guérison qu'avant? Pourquoi ne parvenons-nous pas à être solidement fondés? C'est que nous appliquons des pansements. C'est que nous appliquons des diachylons, du ruban adhésif. Nous essayons de camoufler toute l'affaire, au lieu d'avouer que nous avons besoin d'une transfusion. Nous sommes dépourvus du sang. Nous sommes sans Christ. Ne soyez pas dupes. Ne laissez pas le diable vous flatter l'épaule et vous dire, « Eh bien, je vais à l'église. » Le diable y va aussi. Mais oui, certainement qu'il y va. Il monta vers Dieu, alla à l'église dans le ciel, se présenta devant le trône de Dieu, avec les fils de Dieu, s'assit avec eux, eut une discussion avec Dieu. Il lui demanda, « D'où viens-tu ? » Il répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est de là qu'il revenait. Aussi le diable va-t-il à l'église ? Le diable appartient à l'Église. Le diable agit comme un chrétien, il est un séducteur. Et s'il n'agissait pas comme un chrétien, n'agissait pas comme une Église, il ne serait pas un séducteur. Personne ne pourrait être séduit. La chose est qu'elle sépare le blanc du noir. C'est contraire l'un à l'autre. La Bible a dit, parlant de cet esprit dans les derniers temps, cela serait si proche que ça séduirait les élus s'il était possible. Mes amis, nous y sommes. Il est grand temps pour les prophètes de Dieu, ô frères, pour les prédicateurs de fait à travers la nation, de tomber sur leur face. Bien qu'il y ait 19 millions de baptistes en Amérique, 13 millions de méthodistes, 11 millions de luthériens, 10 millions de presbytériens, miséricorde, pensez-y, et constamment au jeu de Baal à s'amuser, et le mercredi soir, et parfois même le dimanche soir, il reste à la maison à écouter la télévision et la radio, à s'inspirer des nouveautés hollywoodiennes. Votre âme suit le courant de ces choses. Alors que vous devriez avoir votre Bible ouverte quelque part, sur vos genoux devant Dieu, déplorant les péchés du pays. Je suis coupable avec vous. J'ai bien réfléchi. Par la grâce et l'aide de Dieu, si notre Dieu me donne la force de le faire, je suis déterminé à courir vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ jusqu'à ce que la mort me délivre. Que Dieu m'aide à y parvenir. Aide-moi, je te prie. Considérons les œuvres, considérons aussi les choses que j'ai vues et que vous avez vues, être traîné derrière comme cela et devenir spirituellement anémique. Et ce tabernacle-ci connu à travers le monde entier, Ce petit bloc en béton du coin de la rue, Dieu l'a élevé devant la nation. C'est exact. Quand je pense à ce que David a dit, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de mon Dieu est sous une tente. Je lui construirai une maison. » Nathan le prophète lui dit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, Dieu apparut à Nathan et lui dit, « Va dire à David, « Qui étais-tu, David ? Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands hommes de la nation. » Qui était-ce donc dans ce petit tabernacle ici ? Un petit marais se pointant à l'angle de la rue Penn et de la 8e, et que même les gens de Jeffersonville et ceux qui viennent eurent peine à trouver. Et aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, vous a pris et a fait de vous un grand peuple. Bombay, en Inde, sait où est situé ce tabernacle. Durban vous connaît aussi et toutes ces autres nations. L'Afrique sait où nous sommes situés. L'Inde, l'Allemagne, l'Angleterre, la Finlande, la Suisse, l'Europe, l'Asie, au fin fond des îles thaïlandaises. Tous sont au courant de ceci. Et Dieu a fait de nous un exemple pour les gens. Et de penser, après que Dieu eut fait ceci, qu'on lui ait tourné le dos pour patauger dans les choses du monde et devenir spirituellement anémique, alors que nous devrions être le phare établi sur la colline, un feu qui ne peut être caché. Oh Dieu, je suis tout aussi coupable que tous. Ce que je veux dire, c'est qu'un retour à Dieu et qu'une repentance à l'ancienne mode que Dieu a envoyée ferait que lorsque des hommes ou des femmes entrent par cette porte sur des béquilles, ils y sortent sans ces béquilles. Que lorsqu'on y mènerait l'aveugle, il y sortirait en voyant. Que lorsque le sourd y entrerait, il y sortirait guéri. Que lorsque les pécheurs y entreraient, encrassés par le péché, ils en sortiraient lavés dans le sang de l'agneau. Pouvons-nous le faire ? Dieu appela Israël et fit d'eux un exemple. Dieu nous a appelés à être un exemple, mais nous lui avons fait faux bond et nous avons eu honte en sa présence. Pensons aux choses qu'il a faites pour nous, comment il nous a sortis du pâturage, comment il nous a fait connaître de par le monde entier, comment il a fait de grandes choses pour nous. Et cependant, nous tergiversons et nous flirtons et nous sortons. Nous ne semblons pas être sincères. On ne prie plus. Et les choses ne semblent pas aller correctement. Et on a essayé d'infiltrer des petits programmes, des ajouts pour apaiser la douleur. Vous ne pouvez apaiser la douleur avant d'y avoir introduit un bon sang riche pour guérir la plaie. Exact. On excisera un corps de votre pied et le diabète se mettra de la partie. On devra ensuite vous amputer le pied. N'essayez pas d'écarter ceci, ni de contourner cela, ni de penser ceci. Mais la chose à faire est de venir directement à Dieu et dire, « Mon Dieu, je suis anémique et j'ai besoin de ton sang pour me purifier de tout péché. C'est ma prière et j'ai foi que c'est aussi la vôtre. » Pensez-y bien, mes amis. Un de ces jours, c'est plus susceptible d'arriver avant le lever du jour que dans 50 ans d'ici. Une roquette, une de ces bombes au cobalt ou à hydrogène pourrait... La nation entière est sur le qui-vive. Vous l'avez lu sur le journal. Quand l'autre jour le Pentagone a fait appel à la science pour élucider le phénomène des soucoupes volantes, ce n'était pas un mythe. Ils ne les ont pas imaginées, celles-là. C'était réel. C'était mu par une intelligence. Elles volèrent en formation de combat. Elles pouvaient s'arrêter, repartir, s'arrêter, parler. C'était mu par une intelligence. Ils le savaient. Les gens ont ri. Ils ont dit, allons donc, des soucoupes volantes. Et ils en ont bien ri. Mais savez-vous ce que je pense? Jésus a dit qu'avant son retour, il y aurait des signes dans le ciel. Avez-vous remarqué? Avant de commencer à détruire Sodome et Gomorre à cause de leur affaire de sexe, il a envoyé des anges investigateurs. Des anges sont descendus sur la terre ces dernières années. Ils ont été aperçus par du monde, je veux dire, par d'honnêtes personnes, lavées dans le sang, qui sont au courant de ceci. Ils se sont même arrêtés pour qu'on les photographie. Eh oui, des êtres angéliques ont visité la terre, rapportant au Père que le péché s'était à ce point amoncelé que les étoiles avaient peine à briller. Le monde entier chancelle comme un homme ivre revenant dans la nuit. Exact. Le péché parmi les chrétiens, parmi les élus. Ils ont vendu leur droit d'aînesse pour de la popularité. Le ministre a échangé l'évangile pour une réunion sociale. Il a troqué l'évangile démodé du lavage par le sang pour une prédication intellectuelle, discourant sur la société, employant ainsi improprement l'Évangile. Plusieurs sont allés prêcher dans les champs missionnaires et ont utilisé l'Évangile pour un gain personnel, pour faire de l'argent. Beaucoup d'entre eux se sont achetés des fermes et des automobiles et d'autres choses encore qu'ils n'auraient jamais eues s'ils n'eût été de ces gains personnels. Mais pas tous. Je suis reconnaissant qu'il y a encore un reste. Au jour d'Esdras, quand il se mit à pleurer, à implorer et à condamner le péché, vous savez ce qui est arrivé? Tous les élus qui se confiaient en Dieu s'assemblèrent auprès de lui. On a besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui qui, lorsque les prédicateurs prêchent dans ces églises-là et appellent le péché péché et qu'ils le réprimandent, les réels gens de Dieu s'assembleront auprès d'eux et resteront avec eux. C'est exact. Il est grand temps de crier à haute voix, de dire quoi et quoi, et de séparer le vrai du faux. Que Dieu nous accorde d'avoir le courage de le faire. Pensez simplement à ce qui pourrait arriver. Comme je disais, je crois que c'est ce matin, plutôt j'ai entendu quelqu'un dire que un de ces abris, j'ai oublié comment on appelle cela, pour les bombes et les avions à venir. Il n'y a pas longtemps, une émission a passé quelque part et on disait qu'ils avaient fait appel aux grandes escadrilles avec 300 bombardiers chargés de bombes atomiques et à hydrogène suspendus à leur ventre. Il y a quelque temps, au grand aéroport de Shreveport, un de ces gars-là fut converti lors d'une réunion de frère Jack. Il a dit, « On a des bombes atomiques à nos avions et nous pratiquons avec tous les jours. » J'ai dit, « N'as-tu pas peur ?» Il a dit, « Elles n'ont pas le détonateur. Mais on est tellement sur le qui-vive que dans l'espace d'une minute, 60 secondes, les détonateurs seraient mis en place. On se serait ravitaillé en combustible et déjà en route vers l'Angleterre avec ces bombes. » Les grands hangars sont postés partout dans les océans et ils disent aux Russes, osez donc en laisser tomber une, juste une, sur les Nations Unies ou quelque part par là, et vous verrez bien ce qui s'en suivra. Qu'en serait-il? Ce serait un assaut sur la Russie. Et s'il le faisait, s'il commençait à larguer ses bombes atomiques à hydrogène, cela produirait une réaction à la chaîne qui incendierait la Terre à l'état de cendre d'une fournaise ardente. Cela ne serait pas du tout en désaccord avec l'Écriture, vous savez, car la terre sera consumée et le ciel aussi, les éléments de la terre se dissoudront. Nous vivons en un jour périlleux, nous vivons en un jour où les hommes du monde sont effrayés, les grands hommes ont peur à l'idée de qui fera éclater cette première bombe. La première bombe est lancée et toute la chose s'en va dans un ralliement. Mais ce devrait être le temps le plus heureux de tous les temps pour le chrétien. Les temps vont changer, le vieux va devenir jeune, oh, la mort va s'enfuir, la maladie ne sera plus. Plus besoin de réunions de prière pour les malades ou pour les perdus. Mais Dieu viendra prendre ses élus des quatre coins de la terre et les rassemblera sous son aile et nous vivrons et régnerons avec lui à jamais dans son ciel. Oh, frères, sœurs, vous, mes amis, si vous n'êtes pas encore prêts ce soir, puissiez-vous le devenir à cette heure même. Je vous invite à venir à Jésus-Christ ce soir et à le recevoir. À ceux qui s'y opposaient et à ceux qui ne savent ne pas être là où vous devriez être avec Dieu, je vous invite à l'autel avec moi. J'invite chacun de vous à venir ici, et pas seulement pour parler, mais pour rester jusqu'à ce que Dieu ait nettoyé votre âme de tout ce qui ne lui ressemble pas et sortir d'ici une nouvelle personne. Pas en y appliquant un pansement, mais en recevant une transfusion de sang qui purifiera votre sang et vous donnera une vie et une espérance nouvelle. Sortez avec le baptême du Saint-Esprit. Sortez, pas en criant, pas en dansant. Ces choses sont très bien, elles appartiennent toutes à l'Église. Elles appartiennent toutes à la Bible, mais je parle du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Je discutais avec un jeune homme l'autre jour. Sa mère, une chère femme, je la connais pour l'avoir rencontrée une ou deux fois, lui avait dit, « Mon chéri, » à son fils, « viens ici, je veux que tu regardes quelque chose. J'ai de l'huile dans ma main. J'en ai aussi d'avoir transpiré. J'ai de l'huile dans la main, que penses-tu de cela ?» Et le garçon regardait sa mère et lui a répondu, « Maman, je veux te demander quelque chose. » Elle voulait qu'il prie afin qu'elle ait une marche plus rapprochée avec Dieu. Il a dit, « Quand l'huile est venue dans ta main, est-ce que cela a enlevé toute ta condamnation? Est-ce que cela t'a donné une douce expérience avec Dieu? » « Non. » Il lui a répondu, « Alors, je laisserai cela de côté, c'est tout. » Ah, le monde religieux, le peuple pentecôtiste cherche le fantastique. Le monde soi-disant éduqué, le monde dénominationnel cherche la solution géniale qui améliorerait leur dénomination et en accroîtrait le nombre. 1 million de plus, vous savez. Et les nations cherchent une sorte de force policière qui mettrait le monde à leurs pieds et où la justice régnerait. Frères, cela ne vient pas par un pentecôtisme fantastique, ni par des organisations protestantes, ou par une hiérarchie catholique, ni par le Pentagone, ni en tournant une nouvelle page. Cela vient par une vie abandonnée à Jésus-Christ, par le baptême du Saint-Esprit. Tout ce qui ne rencontre pas cela faillira. Prions. Je demanderai à la sœur de maintenant venir au piano. Pendant que nous sommes en prière, pendant que chacun a sa tête inclinée et que chacun prie, je me demande, à ce moment précis, si votre esprit ne se heurterait pas à la parole de Dieu s'il y était confronté. Êtes-vous en règle? Après le service, comme je le disais, je devrais me rendre au chevet de ma belle-mère qui est agonisante. D'autres amis que je sais être d'ici, que j'ai visités, qui sont près de mourir, des gens qui se sont assis dans cette église. Ô frères, sœurs, vous en arriverez là aussi. Vous devez en arriver là. Vous me direz, mais oui, je sais cela, frère Branham. Je compte m'occuper de cette chose-là un de ces jours. Mais ça ne sera peut-être pas un de ces jours pour vous. Aujourd'hui pourrait bien être l'unique jour. Combien peu cet homme se serait douté l'autre jour, venant de la Californie pour entrer dans sa nouvelle maison au Michigan, avec sa petite épouse conduisant l'auto et lui dans la camionnette. Il venait juste de prendre sa retraite de la marine. Combien peu se doutait-il, quand il se mit en route ce matin-là, peut-être d'un port touristique, que sa petite épouse et son bébé trouveraient la mort en quelques instants. Mais juste passé Henryville, leur véhicule entra en collision avec un autobus, et le véhicule du conducteur s'est presque mis en travers, mais ça a tué la femme et la petite fille. J'espère que leurs âmes étaient en règle avec Dieu. Il y a quelques semaines, frères Woods et moi sommes montés à l'endroit où un avion s'était écrasé, ici derrière, et on les regardait ramasser les corps des 8 hommes, là où des têtes, des jambes et des bras étaient éparpillés tout partout. Ils ont ramassé un corps et ses entrailles sortaient de lui. Sans doute un homme bon, un homme renommé de Chicago. Quand cet homme s'est embarqué ce matin-là, je me demande si le soir qu'il est allé à l'église, il avait de bonnes intentions. Le pasteur avait-il fait un appel à l'autel? Avait-il condamné le péché? L'homme avait-il pris sa chance ou était-il sorti comme une brute? L'homme était-il aux yeux de Dieu un fils de Dieu? Réfléchissez à ces choses, mes amis. Elles sont importantes. Elles sont non seulement importantes, mais elles sont ce qui est le plus important pour vous à cette heure. C'est l'heure de la décision. C'est l'heure où vous ferez votre choix d'avenir. Puissiez-vous faire votre choix pendant que nous prions. Père céleste, comme nous lisons dans la Bible, sur ce que tu as dit du péché et de ceux qui l'ont commis et ne l'ont pas confessé, nous réalisons ce que ça signifie de mourir sans connaître Dieu. Nous le savons par l'expérience des autres que nous avons vus partir, de ceux qui eurent l'intention, de ceux qui remirent cela trop longuement. Ô Dieu, ceux qui ont professé sans posséder ce qu'ils disaient avoir, ceux qui ont agi comme des chrétiens et cependant ne jamais l'avoir été, leur vie l'a prouvé et leur mort l'a manifesté. Maintenant, Père, je te prie de parler à chaque cœur ici ce soir et à moi aussi. Seigneur, d'avoir été dilatoire, car plusieurs choses j'aurais pu faire et je ne les ai pas faites. Je confesse mon erreur. Je confesse les fautes de ces gens. Je confesse les fautes de cette nation. Je te demande d'avoir miséricorde, Seigneur. J'ai 3 petits-enfants à élever, et nous vivons ici en un temps de trouble. Et mon Dieu, il ne nous servirait à rien de s'enfuir. Tu sais tout concernant cela. Ô Dieu, je veux être en règle avec toi. Un jour, si un désastre nucléaire ne nous atteint pas, un accident le fera. Si un accident ne nous arrive pas, une maladie le fera. Quelque chose doit nous emporter. Mais nous sommes si heureux de savoir qu'il y a une porte de sortie. Le nom du Seigneur est une tour, et le juste qui s'y réfugie est en sûreté. Mon Dieu, puisse l'ami pécheur ce soir, garçon, fille, homme ou femme, voir la porte ouverte, l'occasion est courir vers Christ en cette heure. Maintenant, tandis que nous avons la tête inclinée, je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui aimeraient dire, en levant la main vers Dieu, « J'ai honte de ma vie, et je veux te confesser mes fautes et implorer ta miséricorde. Levez votre main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs d'entre vous, oui. Il y en a beaucoup ici qui, depuis longtemps, professent le christianisme et savent avoir échoué à être docile envers Dieu et qui font des choses en ce moment même qu'ils ne devraient pas faire. Et vous continuez sans les confesser, flottant impunément à la dérive. Vous regardez ces émissions que vous ne devriez pas regarder. Vous regardez ces magazines et vous lisez une littérature que vous ne devriez pas lire. Ça ne convient pas à des chrétiens. Vous écoutez ces blagues viles et sales, ces cochonneries que vous ne devriez pas écouter, chacun d'entre vous, hommes et femmes. Il y a eu des circonstances où vous auriez pu parler et vous ne l'avez pas fait. Peut-être êtes-vous coupable du péché d'omission. Je me demande si vous lèveriez la main vers Christ pour qu'il vous fasse grâce et vous pardonne. Levez la main. Que Dieu vous bénisse, jeune dame, comme elle s'avance à l'autel pour confesser ses péchés. Levez votre main vers Dieu. C'est ça, monsieur, c'est ça, que Dieu vous bénisse. Levez votre main. Vous savez avoir été dans l'erreur. Je me demande si vous avez le courage ce soir de me rencontrer ici à l'autel. Agenouillons-nous tous, tout autour ici, et disons, Dieu soit miséricordieux envers nous tous. Nous avons besoin de toi. Que Dieu vous bénisse, madame. De voir ces jeunes femmes s'approcher en pleurant, la vie devant elles. Elles sont parvenues à un carrefour. Elles sont victimes des circonstances. Puis réalisez-vous, les vieux, quand nous étions garçons, que nos garçons ont 10 fois les tentations que nous avions. Sœur, réalisez-vous que votre fille a 10 fois les tentations que vous aviez quand vous étiez fille? Qu'est-ce que sa fille en aura? Regardez aux choses, aux tableaux que le diable leur peint. Oh, combien avons-nous besoin de prier? Nous vous reviendrons tantôt. Frère, réalisez-vous que nous ne prions pas la moitié de ce que nos pères priaient? Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps sur nos genoux que les pasteurs avant nous en passaient? Femme, réalisez-vous que vous n'instruisez pas votre fille, ne priez pas avec elle le soir comme votre mère l'a fait pour vous? Alors, qu'en est-il de tout cela? Qui sont les coupables? Nous sommes coupables. On n'a pas à chercher d'issue. Nous sommes coupables. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas remplir la tâche de Dieu comme je le devrais. Je le confesse, je suis fautif. Je demande à Dieu de m'être miséricordieux. J'ai considéré les occasions que j'avais manquées à cause de petites choses insignifiantes qui étaient sans importance. J'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile devant vous. Je me repens devant Dieu et lui demande de me pardonner. Et puisse l'Église me pardonner d'avoir été si dilatoire concernant l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai plus à ce que, tout un chacun essayant de me donner quelque chose à faire, ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire faire. Non-sens! Je connais le programme de Dieu. Il est écrit ici dans la Bible. Et j'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile. 1 million d'âmes gagnées, je devrais en avoir 10 millions. Je suis loin derrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagnées depuis que vous êtes en Christ? Le christianisme se communique de l'un à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagnées depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âme, vous êtes coupable, vous êtes stérile, vous avez amené la honte sur l'Église et l'Évangile. Combien de personnes avez-vous invitées à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devriez être honteux de vous devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir avec moi vous repentir. Ensuite, vous vous inclinerez la tête et la garderez inclinée 1 minute. Tandis que je sens ma culpabilité et aimerais me repentir. Inclinez simplement la tête. Frère Branham quitte la chair pour s'agenouiller lui-même à l'autel. Note de l'éditeur. Notre Père céleste, je m'incline sur cet autel et implore le pardon de mon péché. Je demande le pardon des péchés de ceux qui sont autour de l'autel. Je demande pardon pour cette Église, pour le corps qui est le tien d'une nation à l'autre. Puisses-tu nous faire grâce, car nous avons été si lents en ce qui a trait aux affaires du royaume. Je prie que tu nous pardonneras nos péchés et prendras notre transgression et pardonne-nous d'être si stupides, la stupide ignorance du peuple. On n'a pas été à la hauteur, on a plutôt fait de l'exercice corporel, on a plutôt fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Combien nous avons péché devant toi. En cette réunion du dimanche soir, Père, voyant le prophète de la Bible rougir de honte, nous rougissons aussi. J'ai honte devant toi à cause des péchés du peuple. Les gens, ma nation, mon peuple, j'ai honte d'eux, Seigneur. Constatez que nos jeunes dames se promènent dans les rues agissant comme ça. Constatez la prostitution, les jeunes hommes qui vivent n'importe comment. Constatez que, plutôt que d'aller à l'église, ils restent à la maison à lire ces magazines qu'ils ne devraient pas lire, à regarder ces émissions non censurées, à écouter les plaisanteries sales d'Hollywood, à écouter cette musique boogie-woogie, pondue par des hommes de mauvaise vie et à la conscience vile sous l'influence du diable, afin d'inspirer les œuvres même du diable. Ô Dieu, j'ai honte de moi, de ne pas réprimander de la façon que je devrais. Ô Dieu, éloigne de moi ma culpabilité. Je te prie de le faire. Je te prie de pardonner ces personnes ici premièrement, nous tous ensuite. Aide-nous à nous relever de cet autel de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Aide-nous à nous comporter en chrétiens quand nous sortirons d'ici. Aide-nous à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ne regardant pas à la télévision, ne regardant pas aux comédiens du monde, mais regardant au chef et au consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a supporté l'ignominie à la croix et l'a porté pour nous et a souffert hors de la porte afin qu'il puisse sanctifier le peuple par son sang. Purifie-nous de toute iniquité et considère-nous tes enfants ce soir et reçois-nous dans cette prière de repentance. Accorde-nous, Seigneur, paix et joie. Et puissions-nous ce soir, quand nous serons tous dans nos lits, penser à cette soirée et à la condition de ce monde que la Bible vient de nous révéler. Puissions-nous en rougir, comme nous y réfléchirons, et puisses-tu accorder paix et bonheur à nos cœurs. Nous nous repentons, Seigneur, devant toi, sur cet autel. Ô Dieu, aide-moi maintenant, alors que ma foi s'éveille, et que ce soit en ta volonté, que plusieurs centaines d'âmes soient gagnées à toi. C'est là ma prière. Aide-moi aussi à avoir foi et courage, comme je continuerai, ne regardant à nul autre qu'à toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Accorde-leur, ô Dieu. Accorde ton pardon à chaque diacre de cette Église. Pardonne aux pasteurs. Pardonne aux laïcs, Seigneur. Pardonne à chacun tous leurs péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à chaque étranger qui est ici présent, et puissions-nous sentir l'impact du Saint-Esprit dans notre vie, puisque nous nous humilions devant toi ce soir, nous repentant de tout notre cœur, afin que tu nous reçoives et fasses de nous un peuple humble, tranquille, sanctifié pour ton service. Accorde-nous cette bénédiction, Seigneur, à l'autel où nous nous tenons. Accorde-le et incline notre tête et notre cœur devant toi. Nous demandons ceci au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Je t'appartiens, Seigneur, j'ai entendu ta voix qui me parlait de ton amour pour moi. Combien je désire m'élever dans les bras de la foi et être attiré plus près de toi. Attire-moi plus près, Seigneur béni, de la croix où tu mourus. Attire-moi plus près, toujours plus près, Seigneur béni, de ton précieux côté ensanglanté. Je suis heureux de voir qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui se sont approchés à l'autel. Habituellement, ce sont les femmes qui peuvent facilement être touchées. Il y a quelque chose les concernant, leur cœur peut facilement être touché à cause de l'élément féminin. Elles sont des dames, et vous pouvez parfois les toucher. Mais je suis si heureux de voir que le Saint-Esprit peut aussi toucher des hommes et les amener à l'autel. Et je me demande combien d'entre vous qui se sont agenouillés à l'autel sans avoir fait une consécration à Dieu et sortiront d'ici pour vivre une meilleure vie par la grâce de Dieu et pour faire plus pour le royaume de Dieu et pour sa cause. Lèveriez-vous la main à Christ si vous êtes autour de l'autel et dire « Je crois que maintenant je me suis repenti ». Puisse Dieu vous bénir. Combien d'entre vous dans la salle savent s'être repentis à leur siège et combien sentent comme s'ils voulaient mieux faire? Que Dieu vous bénisse. Maintenant, levons-nous. Vous ici à l'autel, regardez dans l'autre direction si vous voulez. Maintenant, vous ici à l'autel, levez vos mains si vous désirez leur prière, afin que vous puissiez continuer à aller de l'avant. Lèveriez-vous votre main ici à l'autel, en signe que vous désirez leur prière? Dieu nous aidera à le faire. Puisse le Seigneur Jésus nous bénir. N'oubliez donc pas le service du dimanche soir.